franceinter.fr.
Pierre, qu'est-ce que vous faites?
Taisez-vous. Regardez ça, c'est magnifique, c'est la nature.
Pierre, c'est très gênant. Comment pouvez-vous regarder une chose pareille?
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui Sophie Moreno et Patrick Henry à la technique, et assisté de Séverine Bouvard, c'est Fabrice Laigle qui réalise cette émission. Allez, une petite humeur. Anne-Marie est femme patron pêcheur à Saint-Jean-de-Luz. Donc une réalité nommée fiction en quelque sorte, vous allez comprendre. Le vent a tant soufflé sur l'Amérique, déchaînant les chevaux de la mer, que les poissons de l'Atlantique, déboussolés, ont perdu le nord, le sud et l'ouest. Alors ils sont partis nager vers l'est. À 1000 milles marins de là, de Manhattan, bercé par la houle, seul sur son petit bateau, Anne-Marie, patron pêcheur à Saint-Jean-de-Luz, tirait sur sa palangre. Et ça mordait dans le golfe de Gascogne. Mais au lieu de l'accent rocailleux habituel des fiers maquereaux de la côte basque, on entendait sur le plancher de la barcasse, parmi les flics-flacs des prises affolées, un curieux sabir de rappeur du Bronx, mêlé de vigoureux jurons tout droit sortis des plages de Coney Island. Eh oui, la pêche était fructueuse pour Anne-Marie, qui pouvait entonner un glorieux gospel d'action de grâce en reconnaissance. La pêche était bonne, sa petite entreprise de pêche côtière marchait très bien. Elle existe, Anne-Marie, elle veut faire entendre la voix des petits pêcheurs en France et en Europe. Elle veut privilégier la qualité plutôt que la quantité. Les armateurs ne sont pas des pêcheurs mais des hommes d'affaires. Les gros navires industriels, faut le rappeler, équipés de radars, représentent 1% de cette flotte mais accaparent 60% de la récolte totale. Anne-Marie, elle veut une nouvelle équation de la politique de pêche de l'Union européenne. Petite pêche, grand avenir. 80% des bateaux, 65% des emplois en Europe. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'une bonne nouvelle est arrivée cette semaine. Elle a été entendue au Parlement européen à une large majorité le 6 février. Eh bien, ce Parlement a adopté une orientation radicalement différente pour la nouvelle politique commune des pêches. Pour la première fois, l'Europe installerait un critère écologique. Alléluia, enfin, l'état de la ressource comme critère déterminant. Dit autrement, on mettrait fin à la surpêche. Je crois que les chiffres, vous les connaissez, 54% des stocks de l'Atlantique Nord-Est et 87% des stocks de Méditerranée sont surexploités, productivisme aveugle, on connaît la chanson. Eh bien, figurez-vous qu'on s'est rendu compte que s'il n'y avait plus de poissons dans les mers, on n'aurait plus de pêcheurs. Ouais, incroyable le niveau d'études qu'il faut avoir pour en arriver là. Aujourd'hui, on va introduire de la durabilité au cœur de la régulation économique. Alors, bon, après le Parlement, c'est le Conseil des ministres de la pêche des 27 États membres qui doit maintenant se prononcer sur la proposition de réforme. Mais ce petit compte d'après Noël pour rappeler qu'il y a 1000 façons de profiter de l'océan sans épuiser ses ressources et qu'il peut encore réserver plein de surprises positives. Small is beautiful, surtout sur la mer. Alors Anne-Marie Vergès, 53 ans, est la seule femme patron pêcheur à la palangre à Saint-Jean-de-Luz sur un petit bateau qui s'appelle le Naïkari, qui signifie en basque « désir ». Vos questions sont arrivées régulièrement sur le site de CO2 Mon Amour et donc soit on vous a rappelé, soit vous nous avez laissé des messages et c'est vous qui donc composez ce menu aujourd'hui. Allez, on commence.
Oui, bonjour à tous, c'est Edmond, je vous appelle de Sucy-en-Brie. Écoutez, cet hiver, on en a vraiment marre, quoi. Le ciel est toujours gris, avec cette pseudo-neige qu'il y a eu un peu, en tout cas il a plu tout le temps, il fait gris, on n'en peut plus, on voudrait du soleil. J'ai envie de voir les îles. Est-ce que vous pourriez nous faire rêver, Denis Chessou? J'aimerais beaucoup entendre parler d'îles de soleil. Merci.
Alors, pour le soleil, c'est un peu râpé parce qu'il y a encore eu des pluies vergassantes à Sucy-en-Brie comme ailleurs aujourd'hui en région parisienne. Et puis, du côté de Grasse, vous avez de la neige, vous faites du ski de fond. Enfin, vous voyez, donc c'est assez intense en ce moment. Donc, on va essayer quand même de parler des îles avec un homme que vous connaissez bien. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Vous êtes un grand voyageur. Je ne sais pas combien d'îles vous avez fréquentées, mais parlez-nous donc des îles, offrez-nous ce vagabondage insulaire.
Oui, j'ai pas fréquenté toutes les îles, non. Parce qu'il y en a à peu près 500 000. Mm. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a trois sortes d'îles. Il y a les îles qui sont des morceaux de continents qui se sont détachés. Il y a des îles qui sont des îles coralliennes, donc des atolls. Et puis, il y a des îles qui sont volcaniques en mer et qui ont souvent des volcans qui sont encore en éruption.
Alors commençons donc par les continentales.
Alors les continentales, la Corse est le prototype d'une île continentale parce que la Corse autrefois était rattachée au nord de la Méditerranée. Ouais. Bon, on en connaît d'autres qui sont célèbres. Les Seychelles, par exemple, qui sont pas loin de l'Afrique, se sont détachées de l'Inde. Mmh. Et on sait à peu près quand. 60 millions d'années probablement.
Madagascar.
Alors ça s'est détaché de l'Afrique et il y a de ça en gros 30 millions d'années. Mais quand elles se détachent, elles partent avec toute leur végétation. Donc elles sont habillées en quelque sorte. Et ensuite elles vont commencer à évoluer et on verra les plantes se modifier puisqu'elles n'ont plus de contact avec leurs ancêtres de leur continent qu'elles ont abandonné. Alors il y a aussi le cas de l'Angleterre qui est une île parce qu'elle était rattachée au continent, mais là c'est la mer qui a monté, c'est la mer qui a changé de position et donc ça donne aussi des îles continentales.
Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on pouvait traverser la Manche à pied sec.
Oui, tout à fait, il y a 17 millions d'années. Oui. 17 000 ans, pardon. Oui. On pouvait traverser la Manche à pied sec.
Et c'est pour ça qu'on trouve des eaux de mammouth aussi en chalutage.
Oui, tout à fait, absolument. Alors les océaniques, on connaît bien les volcaniques ce sont des îles qui émergent de chaînes montagneuses sous-marines et qui forment d'habitude des chapelets dont le prototype ce sont les Antilles par exemple, ou si vous connaissez la fameuse ceinture de feu du Pacifique. Alors il y en a deux qui sont bien connus, c'est la Réunion avec des volcans qui fonctionnent encore, et puis c'est l'île Maurice. Tout à côté, mais le volcan, il est éteint. Il n'y a plus de volcan qui...
Comme le dodo, il est éteint aussi.
Comme le dodo, qui est censé être un gros oiseau qui ne savait plus voler parce qu'il n'avait pas de prédateur. Alors, on en voit sortir de temps en temps. On en a vu sortir une près des Tonga, dans le Pacifique, en 2006. On en a vu sortir une dans l'Atlantique, près de l'Islande. C'est tout à fait récent, c'est en 1963. Elle s'appelle Surtsey. Et lorsqu'elles émergent, celles-là, elles sont nues. C'est donc un cas tout à fait différent des autres cas. Et puis, elles vont se repeupler. On a étudié de très près la repopulation de Surtsey. Alors, c'est des oiseaux migrateurs qui venaient d'Écosse, qui ont atterri sur cette petite île et qui ont laissé des graines. Et il y a déjà, au bout de même 50 ans, il y a déjà 30 espèces de plantes qui sont sur cette île, qui était totalement nue quand elle est sortie. Alors il y a aussi l'épisode du Krakatoa, bien connu, qui était un énorme volcan qui a craché en 1883. Bon, il était complètement couvert de lave, il n'y avait pas de vie dessus.
Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on a eu un refroidissement du
climat. Absolument,
climat.
Parce que les mètres cubes de matière qui se sont mis dans l'atmosphère et qui ont été portés par les jet streams, les grands vents d'altitude, ont diminué l'insolation et donc ça fait froid. Il y a même eu des hivers en été. Oui. Alors celle-ci, elle s'est complètement recouverte de végétation tropicale en 50 ans. Au bout de 50 ans, on ne voyait plus du tout qu'elle avait été toute nue 50 ans avant. Voilà. Et maintenant, ce qui est intéressant, très intéressant, c'est comment, sur ces îles, les plantes évoluent.
On va prendre l'exemple de la Corse.
Oui, c'est très intéressant. On prend l'exemple d'un sénson. Alors, il y a un sénson.
Alors, un sénson, quand même, rappelez-nous ce que
c'est. Un sénson, c'est comme une petite marguerite, en fait. Ouais. C'est une petite marguerite, ou c'est un petit pissenlit plutôt qu'une petite marguerite. C'est une petite pissenlit de la famille de ce qu'on appelle aujourd'hui les acéracées, qu'on appelait autrefois les composés. Alors, ce sénson, il a évolué et il a donné trois espèces nouvelles. L'une, sur les rochers du littoral, donc à très très faible altitude, à quelques dizaines de mètres au-dessus de l'eau. Le deuxième, sur les roches qu'on appelle ultra-basiques, qui sont aussi appelées les serpentines. Oui. Vous connaissez les serpentines?
On va jusqu'à presque 1000 mètres.
On va jusqu'à presque 1000 mètres. Et la troisième, elle est entre 1450 et 1900 mètres. Oui. Et ces espèces sont de vraies espèces. Elles se sont donc formées par évolution biologique. Et ça, sur quand même quelques millions d'années.
Alors, on va aller aussi aux Canaries, parce que là, c'est intéressant. On a d'ailleurs une espèce de résumé, parfois, de l'évolution quand on parle des Canaries. Oui. Vous en aviez déjà parlé. Que trouve-t-on?
Alors, aux Canaries, on trouve des espèces qui étaient présentes en Europe avant la dernière glaciation et qui ont été chassées par la dernière grande glaciation. Alors, on ne sait pas très bien comment elles ont atterri aux Canaries, mais ce qu'on sait très bien, c'est qu'elles y ont effectivement atterri, et que vous avez aux Canaries de nombreuses espèces qui étaient présentes à Toulon et à Marseille il y a 200 000 ans. Et en particulier, on a des forêts de lauriers, qu'on avait nous aussi, mais qu'on a complètement perdu. La dernière glaciation a tout raclé, a tout poussé vers le sud. Et alors, il y a un phénomène très étrange aux Canaries, c'est que ces espèces-là ont continué à évoluer, et certaines sont devenues très grandes. Le symbole des Canaries, c'est une vipérine, donc c'est une famille, une plante de la famille de la bourrache, qui a une tige unique, avec d'innombrables fleurs qui forment une sorte d'épi très long. Ça mesure 5 mètres. Et vous avez vu cette plante déjà, on la voit souvent représentée dans les publicités des agences de tourisme, donc elle est devenue géante. Alors il y a aussi un phénomène inverse, c'est qu'il y a des plantes qui viennent de l'extérieur et qui s'installent.
Donc les envahissantes.
Alors les envahissantes, on peut prendre un exemple malheureusement très connu à La Réunion, où les goyaviers, qui donnent un fruit qu'on appelle le goyave, sont extrêmement envahissantes, ou ce qu'on appelle la vigne marronne, en fait c'est pas une vigne, c'est une mûre, c'est une ronce, est extrêmement envahissante aussi, et alors elle chasse les endémiques, qui sont pas très capables de se défendre, pas très compétitives. Et c'est exactement le processus qui se passe quand les Blancs arrivent à quelque part et puis qui démolissent tout ce qui existait avant. C'est les lois de la vie sont universelles. C'est ça qu'il faut retenir, c'est la leçon. Oui. La leçon de l'émission. Les lois de la vie sont universelles. Quand nous arrivons, il y a tout qui disparaît. Et bien, celles-là, elles sont pareilles que nous.
D'accord.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Ah ben la chaleur était dans la voix de Jean-Marie Pelt, oui, même s'il a parlé de glaciation. On poursuit ces voyages avec vos questions. On va parler de bâtonnets et de réchauffement climatique. Il n'y a pas de raison, on n'a pas
joué. So we meet again after several years of separation, moving on, moving around. They will spend this time chasing the other's tail. Whoa, whoa. I can never belong to you. Oh, 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 oh. I can never belong to you. Winter and spring. Spring, summer and fall, summer and fall. You're the wind surfer crossing the ocean, I'm the boat behind. Skiffle and ride, skiffle and ride. Shuffle and waltz, shuffle and waltz. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing oh 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 oh. I can never belong.
Là où CO2 mon amour passe, la pollution trépasse. Et allez. Eh ben quoi, on peut rêver un peu, non?
CO2 mon amour, Denis Chessou.
Oui, bonjour CO2 mon amour, bonjour Denis. Je suis dans le Calvados, à Grangue exactement, et je me posais la question, j'ai entendu ce matin parler d'un enneigement exceptionnel à Cotteret, 6 mètres de neige cumulée était tombée. Alors, le réchauffement climatique, où on en est, c'est vrai ou c'est pas vrai tout ça?
Alors, on ne mélange pas tout, pardonnez-moi de vous le dire, mais il y a la météo, on va y revenir aussi, et il y a le climat, qui sont des notions un tout petit peu quand même différentes. Donc, on va faire le point. C'est un peu une gageure en permanence, là, de vous parler de réchauffement climatique. Vous êtes en train de vous geler, on le sait, un peu dans toute la France. Et pourtant, ça chauffe. Valérie Masson-Delmotte est climatologue, chercheure au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Elle appartient au GIEC, elle a écrit de très nombreux ouvrages, le livre du climat, Le climat, le vrai et le faux aux éditions du Pommier. Le dernier rapport du GIEC date de 2007, le prochain, donc ce sera au mois de septembre 2013. Alors, où en est-on? Quelle est la réalité de l'art aujourd'hui, Valérie Masson-Delmotte?
Le constat, en fait, il est renforcé d'un climat qui change, un réchauffement à la surface des continents, un réchauffement aussi des eaux de mer qui se dilatent, une fonte de la plupart des glaciers et des calottes aussi bien du Groenland que de l'Antarctique de l'Ouest. Donc un réchauffement qui se traduit également par des changements dans les événements les plus intenses, ceux qui ont finalement beaucoup d'effets sur les activités humaines ou sur les écosystèmes. Donc on peut décrire ainsi une augmentation de l'intensité de certaines vagues de chaleur. On peut parler de 2003 en Europe de l'Ouest, 2010 en Russie, 2012 aux États-Unis ou juste à l'instant des événements assez exceptionnels en Australie. Et puis également une augmentation dans certaines régions des événements de très fortes précipitations. Ça fait partie du tableau d'ensemble d'un climat qui change.
C'est-à-dire que ça va amplifier l'existant. Quoi. Une fois de plus, le réchauffement climatique, les endroits qui sont secs seront plus secs, les endroits qui seront plus vieux seront encore plus pluvieux, pour qu'on comprenne.
Alors, en moyenne, c'est ce qu'on en comprend, effectivement. Sachant que dans un endroit qui est tempéré, on peut aussi avoir une augmentation des situations extrêmes, donc des vagues de chaleur avec justement des problèmes d'approvisionnement en eau d'un côté, et parfois dans la même région, des événements de précipitation qui peuvent atteindre des intensités qu'on ne connaissait pas.
On parle de 1 degré ou 0,8 pour être précis depuis un siècle, c'est toujours valable pour l'ensemble du globe ?
Oui, tout à fait. Donc le réchauffement observé, il est d'environ 0,8 degré depuis le début du XXe siècle. C'est un réchauffement qui est hétérogène, qui n'a pas un rythme constant au cours du temps. C'est un réchauffement qui est plus marqué sur les continents que sur les océans, particulièrement marqué dans les régions de l'Arctique, où il dépasse les 2 degrés au cours des derniers 50 ans.
Et qui est plus fort, d'une manière générale, depuis 30 à 40 ans. Là, il y a eu vraiment une accélération du phénomène.
Alors, il y a eu une accélération du réchauffement, je dirais, à partir des années 70 hein, jusqu'au début des années 2000. Depuis le début des années 2000, la température moyenne à la surface de la Terre, elle augmente, mais très faiblement. On voit bien la superposition des différents facteurs qui jouent sur l'évolution de cette température. Donc on a les activités humaines à travers le rejet de gaz à effet de serre, mais aussi les particules de pollution, qui ont un effet, à l'inverse, globalement refroidissant. Et puis on a aussi les cycles de 11 ans du Soleil, les éruptions volcaniques et enfin la variabilité interne à la circulation de l'océan et de l'atmosphère qui fait que certaines années, par exemple les années marquées par des événements El Niño sont particulièrement intenses ou les événements marqués par des événements La Niña un peu plus fraîches.
Alors ce qui vous inquiète quand même comme climatologue, c'est que ce phénomène continue à croître. Je sais très bien que là on a gelé en France, mais là on est sur de la météo, on n'est pas sur du climat. Et qu'on est plutôt sur quand même des scénarios les plus extrêmes qui ont été envisagés par le GIEC. C'est-à-dire que les fameux 2 degrés qu'il ne faudrait pas dépasser, bah, il semble qu'on va les dépasser.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement en termes de rejet de gaz à effet de serre, la réalité des derniers 10 ans, depuis je dirais le début des années 2000, c'est qu'on est sur un rythme plus important de rejet de gaz à effet de serre d'origine humaine que précédemment. Donc on a en fait une expérience grandeur nature sur le climat que nous intensifions globalement, disons depuis je dirais la deuxième moitié du XXe siècle. Donc c'est là où ça devient le principal facteur d'évolution. Et par ailleurs, donc les conséquences des rejets de gaz à effet de serre, elles sont sur des constantes de temps très longues. Donc aujourd'hui, le climat n'est pas à l'équilibre par rapport à sa composition atmosphérique. Il est en train de s'y ajuster. Et puis, nous continuons chaque année à injecter davantage de gaz à effet de serre. On se dirige sur une perturbation qui est très profonde, pas uniquement à l'échelle de 50 ans, mais même à l'échelle de plusieurs siècles vers le futur, parce que la durée de vie de ce dioxyde de carbone que nous injectons dans l'atmosphère en particulier est très longue.
Valérie Besson-Delmotte, vous avez beaucoup travaillé aussi sur le Groenland. Vous venez de sortir une publication dans Nature, donc il y a simplement quelques jours. Qu'est-ce que l'on peut dire? Parce que donc, c'est la suite d'un forage qui a eu lieu il n'y a pas longtemps.
Donc c'est le résultat d'un forage qui s'appelle NEM, au nord-ouest du Groenland. Et c'est vraiment l'aboutissement d'une forme de quête du Graal dans la communauté internationale qui s'intéresse aux carottes de glace. Depuis très longtemps, nous cherchions à avoir des données précises sur l'évolution du climat et de la forme de la calotte du Groenland lors de la dernière période interglaciaire qui s'est produite il y a environ 125 000 ans.
La dernière période glaciaire, c'était il y a 20 000 ans et celle d'avant, c'était il y a 125 000 ans.
C'est ça. Donc en fait, on a un climat chaud depuis à peu près 11 000 ans. Avant, on avait un climat glaciaire. Et avant cette glaciation, un climat chaud, davantage d'ensoleillement d'été, des températures plus élevées autour de l'Arctique et la question de savoir comment la glace du Groenland y a réagi. Donc ce forage nous donne enfin accès à un enregistrement complet de cette période, nous montre localement des températures élevées de plus de 4 degrés par rapport au climat pré-industriel et finalement des variations d'altitude relativement modestes de l'ordre de 300 mètres sur ce site pendant cette période. Et ça nous permet d'estimer que la calotte du Groenland, pendant cet épisode chaud, a dû perdre environ 2 mètres de niveau des mers. Cette période correspond à un haut niveau marin, certainement plus de 4 mètres au-dessus du niveau actuel et probablement plus de 6 mètres. Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement, pour cette période passée, l'écoulement du Groenland a été relativement modeste et il a perdu environ un quart de son volume. La mauvaise nouvelle, c'est que par soustraction, très probablement l'Antarctique et l'Antarctique de l'Ouest ou certains endroits de l'Antarctique de l'Est ont réagi pendant cette période chaude ancienne.
Valérie Masson-Delmotte, vous êtes bien sûr scientifique, c'est pas vous qui avez les manettes, on va dire, politiques, et vous n'êtes pas à la place des décideurs, mais est-ce que ce mot d'adaptation commence à avoir un sens ou non, aussi bien en France, en Europe que dans le monde ?
Donc vous l'aviez mentionné tout à l'heure, hein, l'objectif affiché par les chefs de gouvernement de limiter l'évolution du climat dans une gamme de l'ordre de 2 degrés de plus que le climat pré-industriel, cet objectif s'éloigne à mesure de l'inaction globale. Il y a un besoin de contrôler l'expérience grandeur nature sur le climat, et on ne peut le faire dans l'état de nos connaissances qu'en limitant les rejets de gaz à effet de serre. Et le deuxième besoin, c'est évidemment, et la nécessité, c'est d'anticiper sur l'évolution du climat pour éviter des conséquences désastreuses et donc construire une vraie stratégie d'adaptation.
Donc ça veut dire revisiter nos modes de consommation, de fonctionnement, de production.
On peut le dire comme ça. En fait, nos modes de vie sont en partie conditionnés par les conditions climatiques. Et le fait que le climat change aura des effets sur de multiples facettes de nos activités, sur les zones habitables, sur la production agricole, sur les écosystèmes que nous gérons finalement. Il y a également toute la question de l'incertitude, l'incertitude sur l'évolution du climat à l'échelle régionale, à court terme, et puis les grands traits qui se dessinent de manière de plus en plus robuste sur l'évolution du climat à horizon de plusieurs décennies.
Et comme ce sont vos enfants, comme on dit, qui vont un peu se taper le travail, c'est le moins qu'on puisse dire pour cette adaptation, Valérie Masson-Delmotte a écrit « Le climat de nos ancêtres à vos enfants » aux éditions du Pommier. Et là, ça concerne absolument tout le monde. Une autre question, change de registre, allez, un autre appel.
Oui, bonjour Denis, c'est Nathalie. Alors j'habite dans un petit village en Haute-Saône, dans le contrefort du Jura, et j'ai entendu parler de locavores, des gens qui seraient locavores, et je sais pas exactement de quoi il s'agit et j'aimerais vraiment savoir plus. Merci, au revoir.
Alors c'est une espèce qui n'est pas en voie de disparition ni complètement d'apparition, un locavore. Alors j'ai rencontré Stéphane Linou qui de septembre 2008 à septembre 2009, donc pendant une année complète pour bien marquer toutes les saisons, est devenu locavore. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est, Stéphane Linou?
Alors les locavores sont des personnes qui ne se nourrissent que dans un rayon de 150 km. En fait, il y a des locavores qui sont à 100%, il y a des locavores qui le sont à peu près à 80%. Et en 2008, après avoir monté les premières AMAP du département de l'Aude, en 2004, en 2010, j'ai décidé de me lancer un défi, qui était celui de ne me nourrir qu'avec des ingrédients issus d'un rayon de 150 km, pour montrer notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements.
Thank you.
sachant que en gros 80% de notre alimentation est achetée en grande surface, que ces mêmes grandes surfaces n'ont que 4 jours de stock devant elles, je me suis dit, tiens, je vais me mettre en scène pour montrer que dans un scénario catastrophe, si un jour les approvisionnements sont coupés, s'il y a une pandémie grippale ou même les transporteurs ne peuvent plus acheminer cette nourriture-là, combien de temps on tient? Est-ce que nous sommes assez suffisants pour localement nous nourrir et sauver les meubles en cas de rupture des approvisionnements? Donc je me suis mis en scène, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes pendant un an. Je me suis fait suivre par un médecin qui a démontré que je ne suis pas mort, je n'ai pas été obèse, je ne me suis pas amaigri. Je me suis fait suivre par une conseillère en économie sociale et familiale qui a montré que je ne me suis pas appauvri, même en mangeant local. Et à la fin, je me suis fait suivre par un historien des révoltes frumentaires, ainsi que par un militaire dégagé de son devoir de réserve. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la nourriture par rapport à l'ordre public? Ben, tout simplement, le titre de mon expérience, c'était « Permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, une question d'ordre public ». Donc, mon expérience a été de manière, on va dire, ludique et sérieuse, de faire monter au cerveau des élus et de la population notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements alimentaires et de montrer notre degré de fragilité du lien social qui nous unit quand tout va bien. Si, par malheur, les approvisionnements venaient à manquer, en fait, tout simplement, on se taperait dessus, sachant que nous avons détruit les zones vivrières autour des villes. La population de Toulouse se nourrissait en gros avec 4000 maraîchers en 1945. Aujourd'hui, ils sont à peu près 40 pour une aire urbaine de 1 million d'habitants. Donc d'où vient la différence de nourriture? Eh bien, tout simplement, des approvisionnements lointains. Donc tout simplement, en créant des AMAP au niveau de la consommation individuelle, on y arrive. Au niveau de l'introduction des produits locaux dans les cantines, eh bien, les élus, ça y est, ils commencent à comprendre. Donc c'est très bien. On arrive à fixer la richesse sur le territoire. Je suis parti du principe suivant. Mieux vaut se nourrir avec du pas bio local, mais qui fait des progrès, plutôt qu'avec du bio qui vient de loin. Donc très clairement, on arrive à faire rimer économie avec écologie et lien social. C'est en gros les trois piliers du développement durable.
Alors, ce qui est très intéressant, Stéphanie Nou, c'est que donc après, on va dire, cette expérience que vous avez donc menée jusqu'au bout, vous avez été élu. Vous avez été élu Europe Écologie Les Verts, donc ici à Castelnaudary, vous êtes conseiller général. Vous avez commencé par faire les choses, un peu comme Pierre Rabhi, hein, lorsqu'il parle, c'est parce qu'il a fait lui aussi donc les choses avant. Et alors donc maintenant, comment ça se passe et comment fait-on lorsqu'on est quand même face à d'énormes coopératives? Ici, on a une énorme coopérative de blé dur principalement, voilà. Et ça vient un peu quand même contrecarrer le mode de fonctionnement qu'ils ont.
Très clairement, on peut arriver à faire coexister plusieurs types d'agriculture. Maintenant, je vois que tous ceux qui ont décrié, on va dire, ces systèmes-là, les circuits courts, maintenant, ils le récupèrent. Donc je me dis que même s'ils le font quelquefois maladroitement, ça prouve que quelque part on a gagné. La société civile, quand elle veut, on va dire, aller dans ce sens-là, peut passer au-dessus de tous les conservatismes, qu'ils soient locaux ou nationaux. Donc je pense, dur comme fer, qu'on peut aller vers une économie positive, même avec les tenants de l'agriculture industrielle.
Stéphane Linou, concrètement, bon, vous avez sûrement créé d'autres AMAP, vous avez replanté des maraîchers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour arriver donc à un circuit court et justement à ce que tout le tissu puisse vivre?
Alors là, je suis sur un projet de monnaie locale, monnaie complémentaire locale. Je pense que les monnaies complémentaires locales, sans être un repli sur soi, parce que bon, les détracteurs ils vont commencer à dire oh, vous voulez mettre des fonds partout, ce n'est pas ça. C'est rendre à la monnaie son aspect, sa fonction première, qui est de faire du lien entre les gens, entre les acteurs de l'économie et du territoire dans lequel on vit. En fait, c'est une monnaie fléchée. Et cette monnaie pourra être dépensée et pourra lier tous les commerces et tous les producteurs qui s'engageront dans une charte positive qui rendra service à l'économie locale et à l'environnement. Donc je pense que c'est, comme Pierre Rabhi le dit, on va dire, le travail du colibri. Chacun fait son boulot Et à force d'additionner des initiatives locales qui vont dans la même direction, le global changera. Par l'expérience locale, on arrivera à mettre autour de la table tout le monde. Et je suis persuadé que nous ne sauverons pas la planète et les diverses économies locales à deux ou trois personnes. L'intégration de toutes les bonnes volontés est nécessaire pour arriver à cela. Donc travaillons sur nos dénominateurs communs et tout ira bien.
Stéphane Linou, donc du côté de Castelnaudary dans le département de l'Aude, qui a réfléchi donc à tout le chaînage. Alors, je vous rassure, hein, il avait son pain avec ses AMAP, ses boulangers à côté, fromage, poulet, pois chiches, vin. Bah oui, quand même, on est dans l'Aude. Alors, évidemment, là, il y avait un côté pas de bras, pas de chocolat. Hein. Ah oui, ça il n'a pas eu de chocolat, pas de café non plus, banane non plus, etc. Mais légumes frais tous les jours sans aucune difficulté. Et puis d'apprendre en fait la différence entre ses désirs, ses caprices et ses véritables besoins. Voyez-vous, puisque notre société quand même est axée sur le désir. Et là, eh ben, on se pose quand même de bonnes questions de fond. Ça me faisait aussi penser que les Japonais, eux, n'avaient pas détruit leurs terres vivrières hein, autour des villes. D'abord parce que c'est extrêmement rare, on le sait, dans ce pays. Et puis qu'il y a un rapport encore assez direct avec les producteurs. Mais je pense qu'on y reviendra au fur et à mesure. Puisque nous avons parlé de l'Aude, eh ben, on a une chanteuse. Ouais, vous la connaissez.
Je loue des chambres d'hôtel aux étages élevés. Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre avant de les capturer. Je les habille de peut-être, c'est l'attraction de les sceller. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour le développer. Je loue des chambres d'hôtel en étages élevés. J'aime les minois facétieux, leurs sourires écorchés. Maladroits, paresseux, fragiles ou réprimés. Je photographie des gens heureux. Sur le papier, leur rayon se voit. Je ne trouve rien de plus précieux que cette étincelle ornée de soie. Mais si j'entreaperçois au travers de ma tête embuée l'ombre d'un orage au loin dans une maisonnée, je tire les rideaux et grimpe sur le toit. Regardez l'homme de toi et moi. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour me le débloquer.
Olivia Ruiz sur France Inter, originaire non loin de Carcassonne. Allez, poursuite, CO2 Mon Amour, questions des auditeurs, vos questions. Tenez, question de l'actualité là.
Oui, bonjour Denis, Pascal, Denior. J'ai entendu parler d'un projet de mine d'or en Guyane et j'aurais aimé en savoir plus sur l'aboutissement ou non de ce projet. Merci.
Alors effectivement, c'est pas dans les Deux-Sèvres que ça se passe. Sujet d'actualité parce qu'on va aller dans un coin très aurifère, donc en Guyane, en limite du parc national, non loin de la commune de Saül. Il se trouve qu'au mois de décembre 2012, le journal officiel a publié un arrêté du mois d'octobre qui était signé par M. Montebourg, donc ministre du redressement productif, et qui accorde à la société française Rexma, société donc qui est connue hein, dans minière, qui ne fait pas n'importe quoi, le permis d'exploiter l'or alluvionnaire d'une rivière, un joli nom qui s'appelle la Limonade. Alors, Laurent Marot, on a envie d'en savoir plus. Vous êtes journaliste à Guyane Première et vous êtes correspondant du Monde.
Ben écoute, écoutez, c'est très simple du côté de la société Rexma, donc cette PME, vous l'avez dit, française, qui souhaitait donc travailler à Saül. On a envoyé les pelleteuses, les pelles mécaniques là-bas à Saül et on est prêt à ouvrir cette mine, donc, qui commence à 3 km du bourg de Saül. Et donc, on est prêt à travailler. On attend tout de même une dernière autorisation qui est l'autorisation du préfet, l'autorisation d'ouverture des travaux miniers qui doit préalablement être examinée par le CODERST, hein, le comité départemental des risques sanitaires et technologiques qui réunit un peu toutes les différentes parties pour pouvoir trancher sur la question. Alors, vous l'avez dit, tout n'est pas joué puisque le préfet ici sur place a dit qu'il écouterait l'avis de ce CODERST avant de trancher. Et cette affaire, en fait, elle est très intéressante du conflit d'intérêts un peu qu'il y a entre la protection de l'environnement et finalement le développement minier. C'est souvent deux tendances qui se sont affrontées ces dernières années en Guyane.
Et on va donc rajouter aussi le fait qu'on a ce parc national qui est encore récent.
Tout à fait. En fait, à mon sens, c'est un conflit de territoire, d'usage du territoire qui n'a pas été tranché, et ce, dès le départ, puisque c'est en 2006, hein, il faut le savoir, toute cette affaire remonte à 2006, le moment où François Loss, le ministre de l'Industrie de l'époque, accorde un permis de recherche, donc qui permet juste de faire de la prospection pour la société minière, pas de produire, donc un permis de recherche dans cette zone où en même temps était prévue la création du parc national et plus précisément d'une zone cœur juste à côté de ce permis de recherche, zone cœur où l'activité minière est complètement interdite. Alors, à l'époque, la ministre de l'écologie Nelly Olin avait déjà protesté en demandant à son collègue de l'industrie de retirer ce permis de recherche. Finalement, eh bien, ce permis de recherche avait également été accordé contre l'avis de tous les services de l'État sur place, du préfet de l'époque et également du conseil municipal de Saül, qui ne souhaite pas toujours d'activité minière dans un périmètre de 10 km pour développer l'écotourisme et l'agriculture. Il faut savoir que Saül, c'est un peu, si vous voulez, la Mecque des randonnées pédestres au pied des grands arbres dans un formidable environnement. Et la commune de Saül veut développer donc d'abord l'écotourisme au plus proche du bourg, jouer cette carte-là. La société a dépensé beaucoup d'argent pour faire des recherches, a identifié un gisement potentiel de 8 tonnes d'or. Et puis, au bout du compte, Éric Besson, le ministre de l'Industrie du gouvernement de droite, début mai, entre les deux tours de la présidentielle, a signé un permis de minier, d'exploitation cette fois-ci. Et quand la gauche est arrivée au pouvoir, on n'a pas publié tout de suite au journal officiel ce permis. Et finalement, Arnaud Montebourg a confirmé ce permis, donc au mois d'octobre, publié au journal officiel le 11 décembre. Arnaud Montebourg, lui, si vous voulez, il s'abrite derrière la notion suivante. Il dit qu'il faut des mines légales là où il risque d'y avoir des orpailleurs clandestins. Oui. Il faut que les légaux remplacent les orpailleurs clandestins qui, eux, détruisent complètement la forêt, qui ne revégétalisent pas. C'est un petit peu son parti pris. Il dit aussi que comme le gouvernement de droite précédent avait accordé finalement ce permis d'exploiter, cela avait ouvert des droits pour cette société Rexma et qu'il a été un peu finalement obligé, en tout cas c'est ce qu'il dit, de confirmer ce permis. Alors évidemment, les associations de protection de l'environnement, le conseil municipal de Saül, la plupart des élus locaux en fait, protestent énergiquement en disant que non, il faut trancher ce conflit en faveur donc du conseil municipal de Saül, de la protection de l'environnement et au bout du compte du parc amazonien, puisque le parc amazonien lui-même a protesté avec véhémence en disant que cette mine était située dans une zone de libre adhésion, une zone certes où on peut faire de la mine, mais en bordure d'une zone cœur, et la crique limonade, la rivière limonade, c'est très joli sur place, il y a même trois belles chutes d'eau, enfin bref, elle coule en zone cœur. Donc s'il y a une pollution sur la mine, inévitablement ça va polluer la zone protégée.
D'accord, donc en fait ce serait aussi rendre un mauvais service, on va dire, à la crédibilité du parc, et puis aussi mentionner que le ministère de l'écologie s'est retrouvé un peu devant le fait accompli, donc ils ont découvert aussi au journal officiel ce décret.
Ouais, c'est un peu l'acte 2, effectivement, la suite du feuilleton, avec à nouveau un conflit au sommet de l'État. Alors il faut savoir que c'est quand même une belle cacophonie, beaucoup de dépenses d'énergie et d'argent pour rien, et que dans le cadre de la réforme du code minier en cours, le ministère de l'écologie souhaite évidemment être dans la boucle et qu'on tranche de façon probablement plus intelligente à ce genre de conflit de territoire. Voilà.
Alors, on n'est évidemment pas, on l'a bien compris, dans la zone cœur. Rien n'empêche, à la limite, de faire cette mine. Mais l'amont risque de polluer, donc l'aval. C'est toujours la grande difficulté dans un lieu où il y a ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité, entre autres dans cette commune de Sahul.
Tout à fait. Et les partisans, les opposants à ce projet soulèvent aussi la notion de solidarité écologique, qui a donc été instituée par la loi qui crée un petit peu les parcs nationaux nouvelle formule. De mémoire, une loi de 2006 ou 2007, là 2006. Je ne sais plus trop. Oui. Et donc cette notion de solidarité écologique qui veut que l'on ne fasse pas d'activités potentiellement polluantes en zone de libre adhésion dans un parc si cela risque de polluer une zone cœur. Il faut savoir que le ministre Arnaud Montebourg va recevoir les parlementaires guyanais donc lundi à son ministère pour essayer donc de dialoguer sur la question.
D'où cette question d'actualité. Merci à vous Laurent Marot, donc journaliste à Guyane Première et correspondant au Monde. Allez, un cinquième sujet.
Oui, bonjour Denis, bonjour à tous, c'est Anne. Je vis du côté de La Rochelle, à La Gore précisément, et j'ai pu regarder une émission de Thalassa à propos des manchots du Cap. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur ces animaux. Est-ce qu'ils sont sympathiques? Est-ce qu'ils sont malmenés? Quel est le traitement qu'on leur inflige? Bon, ben voilà. Si vous pouvez m'aider à y voir clair, ce serait gentil de votre part. Merci et puis à bientôt.
Alors, ils ont effectivement quelques légers soucis, ces manchots du Cap. Une petite chose qu'il faut voir, c'est que si on regarde la carte, vous avez le Cap de Bonne-Espérance. Je vous dis ça parce que c'est un cap qui est extrêmement dangereux et que vous avez très régulièrement des marées noires dans ce coin-là. Il faut dire que tous nos téléviseurs, nos réfrigérateurs, nos écrans plats passent par là-bas. Ce n'est pas exactement une balade de santé. Et quelle est la conséquence? Eh bien, sur nos fameux manchots. On va voir ça avec Stéphane Hénard. Je ne me suis pas rendu là-bas, non pas au Cap. Je me suis rendu à Nausicaa, donc ce lieu superbe à Boulogne-sur-Mer. Stéphane Hénard, présentation de ces petits manchots du Cap.
Alors c'est l'odeur du guano, parce que en fait les manchots produisent énormément de guano et les marins connaissaient ça, puisque quand ils passaient pas loin du Cap de Bonne-Espérance, avant même d'apercevoir les manchots, ils sentaient cette odeur et ils disaient « Ah, on s'approche de ces colonies ». Imaginez quand même qu'au départ, les marins imaginaient de loin que c'était des êtres humains, des petits êtres humains en fait. Hein. Et parce que c'est vrai que dans leur démarche, tout ça, on pouvait peut-être être un peu grugé. Puis il y a cette odeur. Ce guano, ça a fait la fortune des hommes parce que c'est un engrais extraordinaire. Et ça a été une grosse pression sur les manchots parce qu'ils faisaient leur terrier et leur nid dans le guano, dans des montagnes de guano qui s'étaient accumulées au fil des siècles. Et quasiment en une dizaine d'années, toutes ces montagnes ont été rasées pour faire de l'engrais. Et donc, ils ont appris à faire des terriers, comme des lapins ou comme des renards, en fait. Et ils ont un petit peu rendu l'appareil aux humains. Ils se sont un petit peu adaptés à la présence des hommes. Ils ont un petit peu colonisé les habitats humains. Maintenant, il y a des villes portuaires en Afrique du Sud où les manchots viennent chercher refuge près des humains. Parce que ces manchots, ils ont des ennemis, ils ont des prédateurs, qui sont les grands requins et les otaries. Ben, ces otaries et ces grands requins n'aiment pas s'approcher des hommes. Donc, les manchots ont trouvé la parade.
Alors ceux-là, en fait, ce ne sont pas les manchots empereurs.
Alors ces manchots-là, contrairement aux manchots empereurs, aux manchots royaux, aux manchots à Delhi, ils ne vivent pas sur la banquise. Ceux-là, ils vivent dans un climat méditerranéen qui est celui de l'Afrique du Sud. C'est un bon climat d'ailleurs, parce qu'on fait du bon vin là-bas, donc les températures sont assez clémentes. Ils ne subissent pas le gel et se sont adaptés à ce climat. Mais en fait, des manchots, il y en a dans tout l'hémisphère sud. On en trouve même à la limite de l'équateur, parce que le fameux manchot des Galapagos, ben, lui, il vit sur l'équateur. Hein.
Racontez-nous, Stéphane, la vie du manchot. Comment il fonctionne, ce manchot?
Alors, le manchot, c'est un oiseau. C'est un oiseau nageur. Dans l'air, il ne décolle pas, mais dans l'eau, il se propulse comme s'il volait, en fait, et à très grande vitesse. Il est capable de performances élevées. Ça lui permet d'aller plus vite que les poissons, qui sont ses proies. Il s'en va entre une et deux fois par jour, chasser comme ça. Alors, c'est un animal social. Il vit en colonie, avec un code de vie très strict, avec des règles, une préséance, des dominances. Mais ça ne se passe pas violemment. Ce sont des attitudes, des mimiques, pour former des couples, parce que les manchots, quand ils ont atteint l'âge de 2 ou 3 ans, cherchent une compagne ou un compagnon, et ce sera pour la vie, pour 25 ans.
Ah, d'accord, donc fidélité chez le manchot.
C'est un exemple, c'est intéressant, puisque ça permet de créer des colonies qui sont prospères. Le manchot vivait très bien, à peu près jusqu'à l'arrivée de l'ère industrielle. Et on leur a posé des problèmes. Heureusement, maintenant, les gouvernements ont pris des bonnes décisions, et on espère quand même que populations de manchots vont continuer d'exister. Ceci étant, on est quand même très proche de la catastrophe, il est temps de faire un gros effort.
C'est-à-dire qu'on va, disons, sur la liste de l'UICN, comme on dit, c'est-à-dire la liste rouge.
Ils sont depuis peu passés comme espèces en danger, oui, sur la liste de l'UICN. Il faut savoir qu'en un siècle, la population de manchots en liberté est descendue de 99% à certains endroits.
Parce que concurrence de territoire, parce qu'on l'a chassé, qu'est-ce qu'il y a eu?
Bon, actuellement, il reste environ 50 000 couples de manchots sauvages sur les côtes sud-africaines, c'est-à-dire 5%. C'est-à-dire la moitié du minimum génétique pour, oui, maintenir l'espèce. Donc on voit déjà qu'on est vraiment passé dans le rouge foncé, là. Alors qu'est-ce qui a causé ça? Évidemment, ils se sont pris une bonne claque quand on a commencé à détruire leur habitat, oui, pour récupérer le guano. Il leur a fallu un petit temps pour s'adapter. La population a eu du mal à se reconstituer. Et puis ensuite, marée noire sur marée noire. Chaque fois qu'une marée noire arrive, c'est un cinquième de la population qui est mise en danger. Alors heureusement, ce produit, donc cette activité manchot, les Sud-Africains y tiennent énormément. Puis c'est leur patrimoine aussi, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de ce qui fait la beauté de ce pays. Donc il y a énormément de bénévoles qui se retroussent les manches à chaque fois qu'il y a une marée noire pour s'occuper de ces animaux. Ils sont regroupés sous une bannière, une association qui s'appelle la SANDCOB. Et il leur faut des produits. Ils ont mis au point une technique. Maintenant, chacun des manchots qui est récolté par les soins de cette association est sauvé. À chaque fois qu'il y a une marée noire, ils en sauvent au moins un quart, ce qui est beaucoup déjà. Mais ils ont besoin de ces produits qui sont des détergents particuliers. J'ai vu tout ça, des huiles particulières. Donc, ils ont mis au point une démarche qui est formidable, qui est celle du parrainage. On peut parrainer un manchot. Chacun d'entre nous peut le faire, parraine un manchot. Et donc, on a la chance ici d'avoir eu des écoles, des classes qui ont décidé de parrainer comme ça des manchots.
Stéphane, qu'est-ce qui vous plaît dans cet animal? Parce que quand même, vous intéressez à tous les animaux, tout le monde vivant, on va dire, dans les océans. Mais qu'est-ce qui vous plaît particulièrement chez le manchot?
Quand on le regarde, franchement, il se dandine. Il a l'air un peu pâteau sur terre. Puis quand on le regarde un peu plus attentivement, on se rend compte qu'il calcule très bien ses trajectoires. Et en fait, rien ne lui échappe.
Ah oui, là, ils ont pas...
Les observateurs ont entendu le bruit de la barrière. Donc, la barrière qui s'ouvre, ça veut dire on va avoir de la visite, c'est-à-dire les soigneurs vont entrer dans l'enclos.
Ah.
Alors c'est toujours pour quelque chose, c'est pour jouer, c'est pour manger. Cette relation, c'est devenu une relation de confiance. Surtout pour Opale et Océan, ces deux-là qui ont vraiment été très proches de nous, qui ont fait partie de leur famille et qui vont venir, eux, chercher quelques petites caresses, ce qui est un comportement extraordinaire pour un manchot. Elle est très très douce. Elle, c'est autre chose. Ça fait plaisir de faire partie d'une famille comme ça. Quoi. Bon, ce sont des animaux sauvages. Ils ont leur code. Quelquefois, on est admis. Quelquefois, il faut se tenir un peu à l'écart. Il faut les respecter. À partir du moment où on respecte tout ça, ça se passe vraiment bien. Alors, cette posture avec la tête un petit peu courbée, là, et puis, eh bien, c'est gratte-moi là où je peux pas me gratter, c'est-à-dire dans le cou. Voilà, là, elle est contente, elle se régale. Alors son frère se dit, mince, moi si je passe par là, est-ce que je vais bénéficier du même traitement?
Et oui.
Il n'en peut plus, là. Alors lui, c'est un monsieur, il est toujours un peu plus espiègle, quelquefois il donne un petit coup de bec. Alors c'est un coup de bec de manchot, ça peut être douloureux. Hein,
c'est-à-dire qu'ils ont quand même des becs extrêmement tranchants, hein, c'est des petits rasoirs, ça.
Exactement, les poissons qu'ils mangent font à peu près 15-20 cm de long et ils sont avalés d'un coup. Mais au passage, il est tranche en fait. Et en même temps, ils s'en servent aussi pour se débarrasser des plumes, pour nettoyer leurs plumes, tout ça. Et c'est extrêmement, extrêmement précis. Ils ont des gestes très, très, très précis. Ce sont des animaux très délicats en fait. Leur attitude pâteau dissimule en fait vraiment une grande adaptation à leur milieu. Ils sont agiles, hein. Même dans les rochers, ils savent grimper des côtes à 20-30% sans aucun problème. Hein. Là, leurs nids, vous voyez, sont placés en hauteur avec des rochers comme simple chemin, mais ils y accèdent sans souci. Hein. Alors, ils font des bonds également, ils sont capables de bondir, c'est très rigolo. Quand ils se prennent des gamelles, alors, ça fait rire tout le monde, mais ils sont très sympathiques.
Bah, c'est à côté petit clown, hein, c'est quand même ça. Ouais.
Il y a un code quand même, ce sont les points noirs sur le plastron. Chaque manchot a son code de couleur, c'est un peu comme un code barre.
D'accord. Hein,
voilà. Ah là, il y a Opale dans les jambes de Denis, là, le cul.
Merci Stéphane Hénard, Nausicaa formidable raconteur et passionné depuis donc les débuts de Nausicaa, donc plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui là à Boulogne-sur-Mer. Si vous souhaitez en savoir plus, franceinter.fr, CO2 Mon Amour, comment participer aussi, donc si vous souhaitez soutenir ces petits manchots du Cap en Afrique du Sud, eh ben vous avez tous les éléments, vous aurez même une photo d'Opale, oui, absolument charmante. Un autre sujet, allez.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Voilà, je suis Joël dans l'Isère, dans une région de moyenne montagne. Et j'ai une question, est-ce que le commerce par Internet est bien pour l'environnement? Parce que c'est une pratique que je vois beaucoup se développer autour de moi, à la campagne surtout. Voilà, merci pour votre réponse.
Merci à vous, excellente question. Frédéric Denré est avec nous, dans les pieds dans la neige me semble-t-il. Bonjour Frédéric Denré.
Un peu, oui. Il a beaucoup neigé, mais là ça a fini par fondre, donc je suis tranquille, j'ai les pieds au sec.
Voilà. Bon, alors Frédéric, je le rappelle, donc ingénieur en environnement, vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur le réchauffement climatique, sur quelle France en 2030, la dictature du carbone. Donc cette question-là, comment on peut la prendre? Parce qu'on peut se dire, d'un côté, bêtement, l'industrie lourde, ça pollue, etc., le tertiaire est beaucoup mieux. Non, on n'est pas comme ça quand même dans cette émission, on va être un peu plus nuancé.
Oui, il faut être nuancé. Effectivement, en apparence, l'économie tertiaire, le dématérialiser, c'est à peu près aussi vierge vis-à-vis de l'environnement que l'Antarctique où Valérie Masson-Delmotte va chercher ses glaçons. À côté de ça, effectivement, l'industrie lourde, c'est très vilain, c'est beaucoup de fumée, c'est un air pollué, ce sont des rivières ravagées. Quand on y regarde de près, c'est pas tout à fait vrai. D'abord, pour une raison simple, c'est que l'industrie, c'était quelques établissements qui certes ont émis beaucoup de saleté dans l'atmosphère et dans l'eau, mais qu'on pouvait contrôler facilement parce qu'ils étaient peu nombreux. Alors que le tertiaire, ce sont des millions, des centaines de milliers d'entreprises, d'hôpitaux, d'usines, de centres de stockage qui sont disséminés partout en France. Donc, vérifier leur impact sur l'environnement est beaucoup plus difficile. Et puis, il suffit de regarder les chiffres, Denis, quand on regarde l'évolution de la consommation énergétique en France, qui donne une idée des émissions de CO2, si on ne prend que ces deux paramètres, on s'aperçoit que, depuis 2001, par exemple, la consommation énergétique de la France en énergie finale a bougé, a augmenté de quelques pourcents, l'agriculture, ça a baissé de 10%, le résidentiel, c'est-à-dire nous, dans nos maisons avec le chauffage, c'est plus 5%, l'industrie, c'est moins 20%. Alors certes, il y a la crise, il y a eu des délocalisations, mais il y a des efforts considérables qui ont été faits en efficacité énergétique dans l'industrie. Et le tertiaire, dont le e-commerce, c'est plus 25%.
Malgré l'efficacité énergétique, alors lorsque je fais une commande sur Internet, ça correspond à quoi? J'ai vu que c'était l'équivalent à peu près de 3 grammes de pétrole.
C'est 3 grammes de pétrole et c'est, selon les études, entre 3 et 12 grammes de CO2 émis, c'est-à-dire un petit kilomètre en voiture. Alors, la comparaison n'est pas raison, c'est pas tout à fait vrai, c'est juste une image. Mais le e-commerce, forcément, si vous voulez, par rapport à un commerce normal, vous rajoutez deux couches d'émissions d'empreintes environnementales supplémentaires. Vous avez la couche, les data centers, c'est-à-dire les énormes centrales de données, vous avez tout le système Internet, si vous voulez, et en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle les centres de préparation des commandes, qui sont des stocks, qui sont des niveaux logistiques qui se rajoutent aux entrepôts classiques du commerce classique. Donc vous avez deux niveaux de supplémentaires d'émissions possibles. Malgré tout, on a un mal de chien à savoir quelles sont les émissions totales et l'impact sur l'environnement total du e-commerce. Tout ce qu'on sait, et encore une fois c'est pas très nouveau, tout ce qu'on sait c'est que si vous passez beaucoup de temps sur Internet et si ensuite vous vous faites livrer, parce que in fine cette économie dématérialisée va se matérialiser par le livreur qui va arriver chez vous, si votre livreur arrive avec le camion quasiment vide, s'il doit repasser chez vous deux fois, trois fois parce que vous n'êtes pas là, il est bien évident que là le bilan CO2, parce que la consommation énergétique aurait été plus importante, ce bilan CO2 sera beaucoup plus important que si le camion vous a livré en début de tournée et que vous étiez là au moment où le livreur a sonné.
Ça peut être valable pour les courses alimentaires en revanche, parce qu'on sait très bien qu'on prend très souvent la voiture pour aller dans les grandes surfaces.
Voilà, ça c'est pour les courses alimentaires, une étude suédoise a montré que se faire livrer ces aliments, ces fruits et légumes via Internet, ce serait à peu près 30% d'émissions de CO2 en moins par rapport à si vous étiez allé faire vos courses avec la voiture. Mais si on prend l'exemple d'un livre, par exemple, faut savoir que si vous allez spécifiquement à la librairie avec votre voiture pour acheter un livre, l'émission de CO2 imputable à ce livre serait égal à entre à peu près 4 et 7
l'auditeur
pour un livre.
De CO2 Mon Amour ne fait jamais cela, Frédéric Denry.
Je sais bien, mais voilà. Il aussi lâche à plaisir aller dans une librairie.
Oui.
C'est bien
au contraire, soutenons le libraire. Merci beaucoup, Frédéric Denry.
Merci, Denis.
Je vous en prie. Merci à Sophie Moreno, à Patrick Henry, à Séverine Bouvard, notre assistante, à Fabrice Lègle qui réalisait toute cette émission, à Jean-Baptiste Audibert qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2 Mon Amour. L'atelier du Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après Les Petits Bateaux. Et Clara et des Chiclives, qui vous attend déjà? Oui, Clara Dupont-Modo, même avec de la BD et de qualité, eh bien, elle est déjà là. Ce sera après les informations de 15h.